Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Radio Créum. Éthique en série avec Martin Winkler et Daniel Weinstock.
On va parler de Law and Order, et, qui est une série, à mon avis, extrêmement riche sur le plan de l'éthique, ne serait-ce que parce qu'elle va achever sa 19e année et elle va probablement être renouvelée, on l'espère en tout cas pour la 20e, ça fait donc 20 ans. Mais je voudrais d'abord commencer en expliquant que Law and Order, c'est pas seulement une série, mais c'est une constellation de séries. La première, qui s'appelle donc Law and Order, a commencé en 1990. C'est une création de Dick Wolf. Dick Wolf est un scénariste qui a commencé dans la publicité. C'est pas quelqu'un qui écrivait des histoires, qui commence dans la publicité. Puis il travaille pour diverses séries, en particulier il a bossé comme scénariste sur Miami Vice, qui est une série quand même très connue des années 80, la série de Michael Mann. Et il veut faire une série policière qui se passe à New York. Or, à l'époque, au moment où il produit sa série, il y a une période de la télévision où on se dit on va plus faire d'heures dramatiques parce que ça marche plus. Les séries dramatiques en une heure ne marchent plus. Il va falloir revenir à des programmes d'une demi-heure comme dans les années 50 avec Dragnet, avec des séries comme ça. Et ils se disent ce qui serait intelligent, ce serait de faire une série en deux parties, qui serait donc à suivre, où il y aurait la première partie une semaine, la deuxième partie la semaine d'après. Et ils se disent voilà, il y a eu une série dans le temps qui s'appelait Arrest and Trial, dans laquelle la première partie, c'était la poursuite d'un criminel, et la deuxième partie, c'était un avocat qui le défendait. Et comme ce n'était pas vraiment le criminel, il finissait toujours par le faire acquitter. Il a donc cette première... c'est quelqu'un qui travaille avec la mémoire de la télévision. Et puis il se dit, il y a une autre chose que j'aimerais faire, c'est que d'habitude, on présente toujours les avocats. Il y avait Matlock, il y avait Perry Mason, etc., qui sont les avocats qui défendent des accusés qui sont le plus souvent innocents. Mais il n'y a jamais eu de série sur les procureurs, sur les district attorneys, c'est-à-dire les défenseurs de la partie civile, les défenseurs de la société qui poursuivent les criminels. Et donc il a l'idée de Law and Order en se disant je vais faire cette émission qui en fait aura deux volets. Un volet enquête policière et un volet suivi de l'affaire par les procureurs. Et puis finalement, on lui achète le pilote. CBS lui fait faire un pilote, il fait son pilote, CBS le voit, ils disent oui, mais c'est un peu bavard, etc. Il le tourne en 16 mm, ce qui n'est pas du tout habituel. Alors il y a du grain, alors tout le monde dit oui, mais il y a du grain, c'est pas beau. Il dit oui, mais on le fait en méthode semi-documentaire, c'est volontaire qu'il y ait du grain. Ah bah oui, mais ça ne va pas être beau à la télé, mais vous verrez, etc. Bon. Puis CBS n'en veut pas. NBC se dit ça ne va pas être mal ce truc-là, mais faites-nous un autre pilote. Donc il fait un autre pilote. Et là, NBC l'apprend, et ça c'est pour la petite histoire, le pilote, c'est-à-dire le premier épisode qui a été fait de Law and Order, quand on achète les DVD, n'est pas diffusé, n'est pas au début du DVD, c'est le quatrième ou cinquième épisode. Celui qu'on voit au tout début du DVD, c'est le premier, c'est le deuxième pilote qui avait été commencé par NBC, et moi je tiens beaucoup à ce deuxième pilote parce que ça raconte une histoire d'erreur médicale. Et évidemment, en tant que médecin, ça m'intéresse beaucoup, c'est pour ça aussi que j'ai commencé à m'intéresser à Law and Order et à tout cet aspect éthique médical. Donc, il fait cette série qui marche du feu de Dieu, qui dure des années et des années, et puis au bout d'environ 10 ans, il décide de faire ce qu'on appelle un spin-off, une série dérivée. Et il invente... Alors, l'autre particularité de Law and Order qui est très importante, c'est que ça se passe à New York. Pourquoi ça se passe à New York? Et c'est tourné à New York. C'est une des premières séries des années 90 qui, à nouveau, est tournée à New York. La télévision se faisait beaucoup à New York dans les années 50. Puis, grâce à Lucille Ball, ça a émigré sur la côte ouest, et on a commencé à tourner sur la côte ouest. Et là, ils reviennent à New York, il se met en rapport avec la ville de New York, et il dit « je vais tourner dans les rues de New York ». Donc il obtient des aides de la ville de New York, qui adore Law & Order. New York est le premier supporter de Law & Order, puisque c'est aussi un personnage de la série. Il se passe tout à New York, c'est pour ça qu'il décide de faire ça à New York, et il décide de créer une deuxième série qui s'appelle Law & Order Special Victims Unit, qui est une série consacrée plus particulièrement aux crimes sexuels. Dick Wolf est le producteur qui engage tout le monde dans Law & Order, mais il a comme particularité d'être quelqu'un qui écrit très peu. Que je sache, il n'a écrit qu'un seul épisode ou deux épisodes, mais il a engagé beaucoup, beaucoup de scénaristes, il leur fout la paix. Il les laisse tranquilles et il les protège contre la chaîne. Ça c'est le meilleur producteur possible. Et pendant les 10 premières années de Law & Order, il va avoir un producteur, qui est un scénariste producteur, qui s'appelle René Balsé, qui est montréalais, qui est devenu un de mes amis parce que je suis son fan numéro 1 en Europe. René Balsé est devenu le showrunner, c'est-à-dire celui qui fait marcher la série à partir de la 4e ou 5e saison de Law & Order. Il l'a été jusqu'à la 10e année. Il lui a fait obtenir un Emmy Award, c'est-à-dire l'Oscar de la télévision américaine. Il a co-écrit ou écrit une flopée de scénaristes et de scénarios. Et à partir de la 10e année, il est allé créer une deuxième spin-off, c'est-à-dire une troisième série Law & Order qui s'appelle Law & Order Criminal Intent, qui en est maintenant à sa 8e année d'évolution. Donc on a trois séries américaines, une qui a 20 ans ou presque 20 ans, une autre qui en a 10, une troisième qui en a 8.
Il y en a une qui a foiré, non?
Il y en a une quatrième qui s'appelait Law & Order Trial by Jury, voilà. Qui part aussi du point de vue du procureur, mais qui parle aussi des délibérations du jury. C'était une série très très intéressante, mais qui effectivement n'a pas eu une audience suffisante pour continuer. Et puis il faut reconnaître que NBC, à un moment donné, a eu quatre séries Law & Order à l'antenne en même temps, ce qui était peut-être un peu beaucoup. La particularité de Criminal Intent, dont je parlais tout à l'heure, qui est la série de René Balsé, c'est que le personnage central, maintenant d'ailleurs il y a deux équipes, il y a deux personnages centraux, sont des enquêteurs qui sont un petit peu tordus, un petit peu psychotiques aussi. L'enquêteur qui est interprété par Vincent D'Onofrio est un peu modelé, d'après ce que m'a expliqué René, sur l'un des conseillers techniques de Criminal Intent et de Law & Order, qui est une sorte de profiler très expérimenté depuis très longtemps, qui arrive à rentrer dans la pensée des criminels. Maintenant, il faut savoir aussi que depuis, Dick Wolf a essayé d'exporter sa franchise, c'est-à-dire qu'il y a des Law & Order ou des dérivés de Law & Order ailleurs qu'aux États-Unis. Il y a en particulier un Law & Order UK qui vient de commencer sa carrière en Angleterre. Il y a un Law & Order en Russie, que René Balsé a aidé à développer. Il y a un Law & Order en France, qui est un dérivé de Criminal Intent, que René a aussi fait développer sur TF1 et que malheureusement TF1 a complètement massacré parce que c'est sans intérêt. On est les seuls à pas réussir à faire quelque chose d'à peu près correct, même quand on a les scénarios d'origine. Donc, non seulement c'est une franchise américaine, mais c'est une franchise qui va à l'extérieur. Et le format, l'enquête criminelle suivie par la procédure judiciaire qui permet de faire apparaître finalement les problèmes, les vrais problèmes éthiques qui sont dans les enquêtes qui sont traitées, est un format qui s'exporte. Alors, la raison pour laquelle moi j'ai été fasciné d'emblée, les premières années, je ne connaissais pas la série, elle passait déjà en France au début des années 90, et puis des amis avec qui je faisais des livres sur les séries m'ont dit « il faut que vous regardiez ça ». Donc j'ai regardé ça, effectivement. D'abord, c'était un format qui était un format plutôt à l'ancienne, puisque ce n'est pas une série à suivre, c'est une série dont les épisodes sont en principe bouclés. Bien sûr qu'il y a des éléments feuilletonnants parce que les personnages évoluent avec le temps. Il y a un personnage maintenant qui s'appelle Jack McCoy qui est là depuis 15 ans. C'est pas le personnage qui a été là le plus longtemps. Il y en avait un autre qui était Jerry Orbach, qui était l'acteur Jerry Orbach, qui est décédé il y a deux ans, qui était vraiment la mascotte de l'équipe et de la ville de New York. Mais McCoy, qui est interprété par Sam Waterston, est là depuis 20 ans. Il a été d'abord Assistant District Attorney. Et puis l'an dernier, ils ont eu l'idée géniale de le faire passer au rang de district attorney, c'est-à-dire de lui faire prendre le rôle du, du Yoda de la série, et de lui adjoindre un acteur beaucoup plus jeune, qui est un peu une sorte de McCoy plus jeune, qui s'appelle Linus Roach, et qui joue un personnage qui s'appelle Michael Cutter. Et ce qui est passionnant dans cette série, c'est que, comme l'explique Dick Wolf, à partir du moment où il y a des crimes, il y a toujours des histoires à raconter, et depuis 20 ans, il y a toujours des crimes nouveaux à raconter. Alors, il y a toutes sortes de crimes. Il y a des crimes de proximité, hein, comme c'est fréquent, c'est-à-dire des crimes familiaux. Il y a des crimes industriels. Il y a des crimes médicaux, c'est-à-dire des crimes qui sont dus à des médecins ou qui ont affaire avec l'activité des médecins. Il y a des crimes qui sont imputables à des gens de la justice. Il y a des crimes qui sont imputables à des gens à des flics. Il y a des crimes qui sont imputables à peu près à tout le monde. Et l'autre particularité de Law & Order, c'est finalement d'essayer de transposer tout ce qui se passe dans la société américaine à l'intérieur d'un crime qui se passe à New York. Par exemple, il y a eu, après les élections américaines de 2000, il y a eu un épisode qui traitait de la fraude électorale. Et donc des discussions sur la fraude électorale, comme il y en avait eu à propos de l'élection de George Bush. Il y a eu plusieurs émissions, plusieurs scénarios qui traitent en particulier des trafics de drogue à New York, qui sont maintenant, par exemple, l'héroïne maintenant qu'on trouve à New York vient d'Afghanistan. Pourquoi ? Parce que les trafiquants d'héroïne en Afghanistan sont des gens qui aident l'armée américaine à lutter contre les talibans, et donc l'armée américaine ferme les yeux sur les trafics d'héroïne vers les États-Unis. Donc il y a non seulement quelque chose qui est entièrement ancré sur la société américaine contemporaine, mais qui critique de manière systématique, et ça dans les trois séries, qui critique de manière systématique des crimes qui peuvent être aussi des crimes d'État, et qui a une fonction pédagogique et une fonction de dénonciation que moi je trouve absolument étonnante, que je n'ai vu dans aucune autre série, en tout cas sur aussi longtemps, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en France, a fortiori, et qui en plus respecte toujours le format. Avec l'enquête au départ et ensuite la discussion juridique, parce qu'en fait, quand on met les gens devant un juge, il y a plein de problèmes juridiques qui se posent, qui donnent lieu à des tractations, qui donnent lieu à des discussions sans arrêt. Et donc, je vais terminer ma petite présentation là-dessus. C'est une série professionnelle parce que il y a des conseillers techniques qui sont des avocats. Et en général, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'épisodes sont écrits à deux. Il y a un scénariste qui n'est pas spécialisé, qui raconte l'histoire criminelle. Et puis, il y a un scénariste avocat qui, lui, va lui dire, tiens, ce qui serait intéressant, ce serait d'allier cette histoire criminelle qu'on a tirée de l'information ou des journaux, et de lui allier tel point de droit dont on a lu la jurisprudence là récemment et qui nous permet de donner une sorte de plot twist, de détournement de scénario qui va être intéressant pour traiter cette histoire.
Alors, il y a plein de choses dont on peut parler à propos de Law & Order, qui est une émission que je regarde depuis mon retour en Amérique du Nord en 1992. Donc, j'ai manqué, je crois, les deux premières années que je n'ai jamais rattrapées.
Je te prêterai les coffrets.
Je me trouverai les
DVD. Il n'y a pas de problème.
Les DVD. Mais alors, ce qui est frappant avec... alors, avant de passer à l'éthique, c'est l'esthétique Law & Order. Tu l'as rappelé. Depuis 17 ans que je regarde cette émission, il y a quelque chose de terriblement rassurant. D'abord, le... que je ne saurais qui à 10h tous Clong. Les qui à 10h tous les mercredis m'annonce Daniel, tu es en de bonnes mains, quoi qu'il advienne, tu vas passer une heure très intéressante si tu ne t'endors pas avant à voir une histoire se déployer devant toi. Et alors, ce qui est vraiment frappant, c'est le fait que depuis donc le début, avec quelques rares exceptions que je ne saurais nommer, ils s'en sont tenus au même format, c'est-à-dire que la première moitié de l'émission est consacrée à l'enquête policière et la deuxième donc au procès, et que ils n'en ont pas dérogé. Il doit y avoir maintenant plus de 500 épisodes de Law & Order.
Oui, il doit y en avoir 30 qui sont pas comme ça, mais et d'ailleurs sur le plan narratif, ils ne changent le modèle que quand c'est absolument nécessaire à la narration de l'histoire. Si
alors,
c'est pas nécessaire,
il y a un coup de force, une habileté absolument remarquable à s'en tenir à un format qui demeure à peu près complètement inchangé, mais à réussir à l'intérieur à raconter toutes sortes de choses. Mmh. Et alors, ce qui, moi, m'a toujours frappé avec Law & Order, et encore une fois, c'est peut-être quelque chose de général des séries télévisées quand elles sont bien faites, c'est qu'on dispose de 48 minutes ou 42 maintenant minutes. Quand on regarde, quand on essaye de narrer le lendemain à quelqu'un qui n'aurait pas vu l'épisode ce qui s'est passé hier soir à Law & Order, c'est drôlement compliqué. Il y a des rebondissements dans un épisode de Law & Order qui sont des rebondissements qui ne sont jamais complètement parachutés, qui sont toujours au service d'une idée intéressante. Absolument. De toutes les choses ne sont pas toujours comme elles apparaissent, qui peut sembler être un crime passionnel est en fait quelque chose de complètement différent. Mais alors il y a un nombre de rebondissements dans cette émission qu'on ne retrouve pas dans un film de 2 heures. Et ça n'a jamais l'air forcé. On suit avec haletant ces rebondissements. Et quand on a terminé, on s'est dit mais c'est pas possible, ils ont pas fait tout ça en 42 minutes. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné à propos de cette émission, c'est tout simplement l'ingéniosité narrative à l'intérieur d'un cadre restreint. C'est, si on me permet l'analogie, un peu comme le sonnet.
Oui, hein, oui, tout à fait. Ou le haïku.
Une forme qui peut sembler très restrictive, mais qui est en forme, en fait, libératrice de toutes sortes d'énergies créatrices.
C'est de l'écriture sous contrainte, en dehors d'être de l'écriture sous contrainte, c'est aussi de l'écriture collective avec des gens qui maintenant ont une très très grande bouteille, mais qui sont toujours désireux de renouveler ce qu'ils ont à dire et en même temps d'enfoncer des clous. Et ça, on en reparlera la prochaine fois.
À suivre la semaine prochaine.